France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. En annonçant hier la suspension de la réforme des retraites, le Premier ministre a certes brisé un tabou, revenir sur ce qui devait symboliser l'héritage même d'Emmanuel Macron, le prix à payer pour s'éviter une censure du gouvernement par les socialistes. Sauf que dans les faits, on le verra, rien ne permet d'affirmer aujourd'hui qu'il s'agit bien d'un recul majeur pour l'exécutif. À suivre également l'offre de rachat des trois opérateurs français, Bouygues, Orange et Free, de leur concurrent SFR. Celle-ci a certes été rejetée ce matin, mais pourrait bien à terme aboutir à une reconfiguration totale du marché des télécoms. On se rendra par ailleurs à Jérusalem pour y parler chantage à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Enfin, nous serons également aux États-Unis après deux semaines, jour pour jour, de paralysie budgétaire. Après des semaines de conciliabules dans les coulisses, la crise de régime a donc été évitée ou à tout le moins suspendue, puisque hier, pour s'éviter a priori une censure de son gouvernement demain à l'Assemblée, Sébastien Lecornu a fini par concéder au Parti Socialiste, lequel s'était érigé en arbitre de la stabilité, la suspension d'un marqueur emblématique et non moins controversé du second quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028. Et en complément, la durée d'assurance restera à 170 trimestres. Sauf que si cette concession permet effectivement aujourd'hui à l'exécutif de respirer à nouveau et d'espérer peut-être à la fin une rémission miraculeuse, elle est d'abord et surtout en réalité une manière de gagner du temps sans rien détricoter, même pour l'instant, de l'héritage présidentiel, puisque rien ne garantit aujourd'hui que cette suspension aura bien lieu. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Hier, le Premier ministre n'a rien promis d'autre au fond, Rosalie, que de soumettre cette suspension au vote du Parlement lors des débats budgétaires de cet automne, ce qui bien entendu ne présage pas de l'issue du vote.
Cette promesse, ce n'est pas rien, et le vote à l'Assemblée en tout cas, même les macronistes en ont intégré le futur résultat.
C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
L'ancienne ministre et députée Renaissance, Olivia Grégoire.
La messe est un peu dite, on est des gens lucides, on sait que majoritairement... cette réforme sera suspendue volontairement par les députés, donc c'est une annonce de la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la prochaine présidentielle.
Mais sait-on déjà sur quoi les députés vont voter ? Sur France 2, hier soir, le nouveau ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, évoque un texte spécifique, autonome.
On va modifier une loi. Il n'y a que le Parlement qui peut modifier une loi, il faut le faire vite, puisque au moins pour 26, ça vient impacter le budget 26. Donc ça va aller vite.
Donc là, dans les prochains
novembre, décembre, ça va se faire vite. Voilà,
novembre-décembre, il y a une loi pour suspendre la réforme des retraites.
Exactement.
Une loi spécifique, Olivier Fort, le patron du PS, s'en félicite ce matin, sauf qu'en audition à l'Assemblée, une autre ministre, celle des Comptes publics, Amélie de Montchalin, n'a pas tout à fait la même interprétation que son collègue Farandou.
Il a raison, le ministre, de dire que c'est dans une loi. Ça s'appelle la loi de financement de la sécurité sociale. C'est un amendement au PLFSS. Il n'y a pas de loi autre. C'est dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale que le Premier ministre a proposé d'agir. Donc c'est ce texte-là qu'il nous faut faire aboutir.
Et ça, c'est quand même encore loin d'être acquis. On va entamer un marathon budgétaire sans l'article 49.3. Les députés iront-ils au bout de l'examen ? Que feront les sénateurs ? Y aura-t-il un compromis entre les deux chambres ? L'exécutif reprendra-t-il la main par ordonnance ? On est aujourd'hui dans une équation complexe, à inconnues encore multiples.
Merci Rosalie Lafarge. Alors, au vu des engagements même hypothétiques pris hier par Sébastien Lecornu, le pari de l'exécutif pour satisfaire le Parti Socialiste dont il espère qu'il ne lui portera pas de coup de grâce pourrait, c'est vrai, être gagnant. Sauf que là encore, rien n'est écrit. Le gouvernement affrontera demain deux motions de censure et si l'ensemble de la gauche et l'alliance RN-UDR devraient voter pour, cela signifie que seule une petite vingtaine de voix manquerait pour renverser le gouvernement et probablement que le suspense durera jusqu'à l'annonce du décompte final. En d'autres termes, Sébastien Lecornu n'est pas encore certain d'être totalement à l'abri, compte tenu notamment de cette ambiance de dégagisme généralisé où tout ce qui touche aujourd'hui de près ou de loin le pouvoir a vite fait de devenir repoussoir. Et puis, quelle que soit cette fois-ci l'issue du vote, censure ou non, la question se posera forcément d'essayer de comprendre la nature de l'attelage qui, dans un cas comme dans l'autre, verra se réconcilier fortuitement des formations aux divergences de vues a priori irréconciliables et à l'inimité profonde. Et pour essayer de comprendre justement comment le contexte politique pèse aujourd'hui sur la cohésion des différents partis politiques, invité de la rédaction à présent, Alexandre Désé, professeur des universités en sciences politiques à l'Université de Montpellier, par ailleurs auteur de Fin de partie et enquête sur un présumé déclin publié cette année aux presses de Sciences Po. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Depuis la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron laisse entendre que les partis sont finalement les principaux responsables de l'instabilité politique à l'œuvre aujourd'hui. Une position assez conforme en réalité avec le rapport que le chef de l'État entretient avec eux, lui qui a fondé sa carrière précisément, on le sait, sur l'affirmation d'un dépassement des partis comme système. Malgré tout, où que l'on se place sur l'échiquier, est-ce que tout ce beau monde ne s'accorde pas d'abord et surtout autour d'une politique du sauf qui peut ?
Oui, absolument. Je pense que ça ne fait plus beaucoup de doute aujourd'hui. L'un des principaux responsables de la situation politique actuelle, de blocage ou d'instabilité politique, c'est bien le président de la République et non pas les partis qui ne sont en rien, voilà, à l'origine par exemple de la dissolution de l'Assemblée l'année dernière, qui, de mon point de vue, se sont montrés plutôt à l'écoute des demandes de l'exécutif, qui ont participé à des phases de discussion et de négociation sans être forcément entendus, en tout cas jusqu'à hier au moins pour le Parti Socialiste. Donc on est sur une responsabilité de l'exécutif et à mon avis, c'est une manière évidemment de se défausser sur les partis, donc une manière de ne pas endosser la responsabilité de ce qui se passe.
Justement, lors de la chute de son premier gouvernement, Sébastien Lecornu déplorait, lui, que les différents chefs de parti qu'il avait consultés pendant près d'un mois avaient posé davantage de lignes rouges que de lignes vertes. Selon vous, est-ce que la situation actuelle induit des responsables politiques qu'ils aillent, d'une manière ou d'une autre, à l'encontre des intérêts de leur parti ?
Non, je pense que les partis jouent vraiment leur rôle d'opposant politique. Comme vous l'avez rappelé, ils n'ont pas été spécialement ménagés par Emmanuel Macron au cours de ces dernières années. Il y a quand même une opposition aujourd'hui très forte à ce qu'est devenu le macronisme. Il y a quand même des points de programme fondamentaux sur lesquels, de toute manière, les partis sont incapables de s'entendre entre eux ou avec les formations centrales ou les formations macronistes. Donc, je pense qu'on est dans une séquence extraordinaire au niveau politique, mais finalement une séquence ordinaire au niveau du politique et de leurs responsables.
Hier, le président du groupe PS, donc à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, ont affirmé que le PS ne voterait pas la censure immédiate. Pour autant, dès ce matin, des voix dissidentes émergent. Du côté des Républicains, cette fois-ci, les derniers jours ont montré là aussi d'importantes dissensions, notamment autour de la question de la participation au gouvernement. Et puis, de fortes tensions sont également apparues chez Renaissance. Au fond, dans ces trois camps, on a l'impression que les coutures qui font la cohésion des partis menacent chaque jour un peu plus de craquer. Comment est-ce que vous analysez toutes ces recompositions et cette forme d'étiolement de la discipline parlementaire qui est censée fonder la solidité des partis ?
Je pense que c'est une phase ponctuelle, c'est-à-dire l'instabilité politique est partout, elle n'est pas simplement au niveau du régime, elle est au sein également des organismes partisans. Il est extrêmement compliqué d'y voir clair. Les acteurs politiques sont soumis quand même à un jeu qui est inédit quasiment dans l'histoire de la Ve République. On annonce la composition d'un gouvernement un dimanche soir et puis la démission du Premier ministre 14 heures à peine après. Face à toutes ces incertitudes, face à toutes ces instabilités, je trouve, enfin personnellement encore une fois, l'attitude des responsables partisans plutôt exemplaire, mais plutôt responsable, vraiment. Je pense que c'est se tromper que de mettre la focale sur la responsabilité des partis dans ce qui en est aujourd'hui de la situation politique en France. Donc ils passent par, qu'ils connaissent ces remous-là, ça ne m'étonne pas non plus, mais je trouve qu'ils tiennent relativement bien.
Généralement, le rôle d'un parti se définit par sa capacité à coordonner une action politique, donc en prenant en compte toute la chaîne qui unit ses électeurs, ses adhérents, ses élus et ses instances dirigeantes. Là encore, est-ce que la situation ne vient pas mettre en échec cette fonction classique donc des partis politiques en les empêchant de consulter leur base ?
Non, parce que comme on le dit en sciences politiques, les partis, ce sont aussi des champs de force, des champs de lutte, des champs de tension permanentes. Après, ces luttes peuvent être rendues plus ou moins visibles en fonction de l'actualité et des stratégies des acteurs, mais je ne crois pas qu'on assiste aujourd'hui à un délitement des partis politiques. C'est une phase complexe au niveau politique pour tous les acteurs politiques. Je pense que on va évidemment, je l'espère, finir par sortir de cette période difficile et que les partis pour pourront toujours se recomposer à ce moment-là. C'est, enfin, encore une fois, que ça tangue, ça paraît pas anormal. Mais et puis là, on parle beaucoup du PS, de LR, mais de Renaissance. Mais il faudrait peut-être également s'intéresser à deux partis qui, pour l'instant, enfin, même s'ils sont pas forcément très fortement structurés, mais ils sont relativement stables dans leur fonctionnement actuel. C'est LFI et le RN. Donc il y a quand même une tendance à se focaliser aujourd'hui sur les partis de gouvernement, et c'est dommage parce que ça nous fait oublier qu'il y a deux organisations partisanes qui sont en très bonne forme et qui sont en position d'attente de ce qui va se passer.
Et on terminera par ces mots. Merci Alexandre Désé, professeur des universités en sciences politiques à l'Université de Montpellier, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Fin de partie, enquête sur un présumé déclin, publié cette année aux presses de Sciences Po. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
La presse libre est lancée officiellement aujourd'hui.
Oui, c'est sous cette bannière que 8 médias indépendants progressistes ont décidé de se rassembler dans un seul et même abonnement. On y trouve un Arrêt sur Image, Reflet, Next Politis, Mediacité, les rues 89 de Strasbourg, Lyon et Bordeaux. Et l'objectif, Faouzi Trita, est on ne peut plus clair, se présenter comme un rempart contre toute la galaxie des médias détenus aujourd'hui par des milliardaires.
La goutte d'eau, ça a été lorsque Vincent Bolloré a mis la main sur le JDD fin 2023, malgré la mobilisation des journalistes. À ce moment-là, Daniel Schneiderman, le fondateur historique d'Arrêt sur Image, a accéléré le processus de rassemblement des médias indépendants.
La presse Bolloré donne le ton à un certain nombre de journaux, de radios et de télé qui ne lui appartiennent pas. Je pense qu'il ne faut pas laisser cette information, plus largement l'information entre guillemets des milliardaires, puisqu'on l'appelle comme ça, et d'ailleurs c'est vrai, il ne faut pas la laisser empoisonner le pays. Quand vous regardez aux États-Unis, par exemple, à quel point Fox News a été déterminant dans la montée de Trump, et depuis qu'il est président, dans l'accompagnement de Trump, je n'ai pas du tout envie que la France suive l'exemple. Le paysage médiatique se bolorise, se trumpise.
La presse libre veut porter haut les valeurs du respect des faits, de l'exactitude et de la fiabilité de l'info. Romain Thor est le directeur du développement du média Politis. Il a par exemple été consterné par le traitement de la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne.
99% de la presse des milliardaires a critiqué le jugement, a sauté à la gorge de la justice, du travail des magistrats. Celles et ceux qui ne s'informent qu'auprès des médias des milliardaires peuvent penser qu'il y a une énorme injustice, alors qu'il y a des points de vue très argumentés qui affirment exactement le contraire.
La presse libre compte déjà 1500 abonnés. D'autres médias indépendants sont en négociation pour rejoindre la plateforme.
SFR pourrait-il être bientôt démantelé et distribué à ses concurrents?
En tous les cas, la perspective s'est ouverte hier soir après l'annonce d'une offre de rachat conjointement menée donc par Orange, Bouygues Télécom et Iliad, la maison mère donc de Free. 17 milliards d'euros au total pour prendre la main sur l'opérateur. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
Sauf que l'offre a été immédiatement ou presque rejetée, explique ce matin donc Altice à ses salariés, même si en réalité elle était attendue par Patrick Drahi.
Oui, depuis la restructuration de la dette d'Altice cet été avec ses créanciers, Patrick Drahi, on le sait, a construit son empire à coups de dettes et cette dette était devenue insupportable, infinançable. Alors il a choisi de céder 45% de ses parts dans SFR en l'échange d'un allègement de 8,6 milliards d'euros de ses engagements financiers, la plus grande opération du genre en Europe qui basculait l'opérateur dans les mains de banques et de fonds d'investissement décidés à récupérer leurs pertes, c'est-à-dire à vendre. La première offre faite par les concurrents de SFR accordait 43% des parts à Bouygues Télécom, 30% à Iliad, 27% à Orange. Ils se partageraient les clients particuliers. Seul Free et Bouygues hériteraient des clients professionnels. Une société ad hoc serait par ailleurs créée pour gérer les actifs de SFR le temps du partage, le temps aussi de régler les questions sociales. Les salariés sont très inquiets. Ils craignent des coupes dans les effectifs. Difficile de se projeter par ailleurs sur les effets de cette consolidation du marché télécom sur les prix. Tout juste le ministre de l'économie, Roland Lescure, promettait-il ce matin d'être vigilant. L'autorité de la concurrence sera de toute façon saisie avant la finalisation d'un deal. Deal qui n'est donc pas pour tout de suite avec ce premier refus d'Altice. Mais une source syndicale m'évoquait ce matin l'existence d'un prix plancher dans l'accord entre Patrick Drahi et ses créanciers. L'offre d'hier soir valorise Altice à 21 milliards d'euros. Son patron en veut 28. Reste à voir à quel point Iliad, Orange et Bouygues tiennent à ce rachat.
Merci Valentin Gris.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Saluer l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient, comme l'a fait Donald Trump, serait sans doute faire trop peu de cas de la fragilité du cessez-le-feu à l'œuvre aujourd'hui entre Israël et le Hamas, même si depuis 5 jours, le fracas des armes a certes disparu. Les positions si antagonistes des deux belligérants rendent malgré tout cette trêve toujours extrêmement fragile ce matin encore. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. S'agissant, pour commencer Thibault, du retour des dépouilles des otages, le Hamas restitue les corps au compte-gouttes. 4 lundi dernier, 4 hier, peut-être 4 autres aujourd'hui. Sauf qu'on apprend par exemple ce matin que l'un des corps rendus la veille n'est pas celui d'un otage.
Oui, test ADN à l'appui, le verdict est tombé en fin de matinée et ce n'est pas la première fois. Lors de la deuxième trêve, celle de janvier dernier, le Hamas pensait avoir rendu la dépouille de Shiri Bibas, c'est la maman des petits Kfir et Ariel. Eh bien ce n'était pas le cas, mais quelques jours plus tard, tout est rentré dans l'ordre et la famille a pu organiser ses funérailles. Pour le moment, 7 corps ont donc été restitués et reconnus par l'État hébreu, il en reste donc 21 à Gaza. Pour un des négociateurs israéliens qui s'est exprimé tout à l'heure sur la chaîne américaine CBS, les difficultés qu'éprouve le Hamas pour localiser les cadavres s'expliquent par la mort des commandants de l'organisation islamiste qui pour certains étaient les seuls à connaître les emplacements. Des sauveteurs turcs notamment sont actuellement à Gaza pour essayer d'aider le Hamas à retrouver ses dépouilles.
Et c'est dans ce contexte donc Thibault qu'Israël fait à présent du chantage à l'aide humanitaire.
Ouais, toujours pas d'ouverture du point de passage de Rafah à la frontière égyptienne ce matin, contrairement à ce qu'a promis Israël. Et c'est évidemment la réponse de l'État hébreu à la lenteur de la restitution de ses corps. Donc oui, l'aide humanitaire est utilisée comme un moyen de pression. Des camions entrent tout de même à Gaza, confirmation ce matin du programme alimentaire mondial, par 2 autres points de passage, Kerem Shalom et Kisoufim, mais en bien moins grande quantité que ce que prévoit la première phase de l'accord.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Alors 2 ans après l'attaque du 7 octobre, le Premier ministre israélien est aujourd'hui en quête de son plus improbable comeback politique, resté au pouvoir malgré la pire défaillance sécuritaire de l'histoire de son pays. Benjamin Netanyahu espère profiter du retour des derniers otages pour regagner les faveurs de l'opinion et ainsi rebondir politiquement, pourquoi pas même en avançant les élections prévues l'an prochain. En attendant, c'est tout sourire qu'il est arrivé ce matin au tribunal à Tel Aviv pour une nouvelle audience dans son procès au long cours ouvert en 2020 pour corruption.
Aux États-Unis, l'État fédéral a franchi ce matin le cap des 2 semaines de shutdown.
2 semaines de paralysie budgétaire durant lesquelles seuls les services publics essentiels fonctionnent encore, sauf que les effets de ce shutdown sont aujourd'hui de plus en plus perceptibles et ce, Franck Madvon, sans aucune perspective de sortie de crise.
Le Congrès américain vit un jour sans fin. Depuis 2 semaines, les deux camps se renvoient la balle. Les démocrates accusent le pouvoir de refuser une prolongation d'aide aux assurances santé. Hakeem Jeffries, leur leader à la Chambre, parle d'une crise des soins de santé dévastatrice. Son homologue républicain Mike Johnson lui répond « Tout ce que je peux faire, c'est venir au micro tous les jours pour demander aux Américains de supplier les démocrates de faire ce qui est juste. On ne joue pas un jeu, il faut faire ce qui est évident pour que le gouvernement avance pour le peuple. Chaque camp est convaincu que l'autre payera le prix du shutdown dans l'opinion, léger avantage aux démocrates d'après les sondages, mais les effets commencent tout juste à être perceptibles. Des centaines de milliers de fonctionnaires contraints de travailler, ou au contraire au chômage technique, n'ont pas touché leur paye pour la première fois, retard de vol dans les aéroports, fermeture de parcs nationaux ou de musées publics comme ceux très fréquentés de Washington, et 4000 employés fédéraux déjà limogés. La Maison-Blanche promet d'autres licenciements. Donald Trump le dit clairement, on vise les programmes des démocrates qui vont, a-t-il pronostiqué hier, se faire laminer par le shutdown.
Donald Trump n'est pas homme, on le sait, à s'embarrasser généralement des détails. C'est ainsi que le président a trouvé la parade pour éviter la multiplication des procès contre l'industrie pétrolière pour préjudice ou manquement à leur droit devoir d'information. La droite républicaine souhaite désormais tout simplement accorder une immunité juridique aux énergies fossiles. Les puissants scrupules toujours, l'administration trumpiste a voulu restreindre hier l'accès des journalistes au Pentagone. Le ministère de la Défense voulait leur faire signer un document leur interdisant désormais de solliciter et même publier diffuser certaines informations sans autorisation explicite, des restrictions contraires au premier amendement de la Constitution. La plupart des médias ont refusé en bloc ces mesures. On risque de perdre leur accréditation. Enfin, sans craindre la contradiction, c'est au nom justement de la liberté d'expression qu'hier Donald Trump a décoré de la plus haute distinction civile américaine et à titre posthume son allié Charlie Kirk, cet activiste suprémaciste assassiné le 10 septembre dernier. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec de belles éclaircies sur la majeure partie du pays, même si une nouvelle fois des nuages bas résisteront sur la Normandie, les Hauts-de-France et jusque dans certaines vallées du centre-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par l'Agdar Olivier Ben Malek et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.